Bonjour, bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous politique du dimanche, de France Inter à la radio, de France Info à la télévision, en partenariat avec le journal Le Monde. Celui qui a accepté notre invitation et qui sera donc avec nous et en direct jusqu'à 13h est ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports depuis le début du quinquennat. En 5 ans, un record pour un ministre en charge de l'école. Il a imposé sa marque sur le système scolaire avec, dans le primaire par exemple, le dédoublement des classes de CP et du CE1, mais plus encore au lycée peut-être, avec l'introduction de Parcoursup et la réforme du bac, ce qui ne s'est pas fait sans tension avec le corps enseignant. Un corps enseignant qui a mal vécu une crise sanitaire, qui a d'abord imposé l'enseignement à distance avant de multiplier les protocoles sanitaires plus ou moins baroques et plus ou moins avancés, annoncés à l'avance. Pour notre invité, c'était le prix à payer pour maintenir l'école ouverte, sa priorité. Mais il a dû aussi payer le prix d'une impopularité croissante dans les salles des profs. À l'heure où le gouvernement semble vouloir refermer la longue parenthèse de la crise du Covid, quel bilan fait-il de ces plus de 2 années chaotiques à l'école? Pourquoi a-t-il fait de la lutte contre le wokisme une de ses priorités? Comment le ministre de la Jeunesse compte-t-il convaincre les jeunes d'aller voter dans 2 mois? On parlerait aussi de la possible réforme, de la réforme du bac, des salaires des profs et de sa position qu'on dit fragilisée au sein du gouvernement. Jean-Michel Blanquer, c'est lui, et jusqu'à 13h, en direct, l'invité de Questions politiques.
Questions politiques. Thomas Negaroff sur France Inter.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Thomas Negaroff.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour vous poser des questions. Je ne serai pas tout seul, je serai en compagnie de la bande de Questions politiques avec cette semaine Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Bonjour Françoise Fressos du Monde.
Bonjour à tous.
Et salut Karine Bécard de France Inter.
Salut tout le monde.
Le hashtag #QuestionsPol pour vos questions et vos commentaires. Jean-Michel Blanquer, vous avez annoncé vendredi le nouveau protocole sanitaire pour la rentrée des vacances de février. C'est très tôt. On verra pourquoi c'est si tôt cette fois-ci. Est-ce que ça veut dire que c'est un retour progressif à la normale qui s'engage?
C'est en tout cas ce que l'on peut espérer, même si bien sûr personne ne peut prédire l'avenir à long terme sur ces questions. On le sait bien. Enfin, néanmoins, on a évidemment le sentiment que la 5e vague a son pic derrière nous et que même la descente actuelle des chiffres sanitaires est impressionnante. Et donc, elle nous permet d'avoir un relatif optimisme. Je rappelais qu'on a pratiquement divisé par 10 le nombre de cas entre le 25 janvier et la fin de la semaine dernière. Donc, c'est évidemment une situation favorable. C'est toujours plus facile d'annoncer des mesures d'allègement que des mesures de durcissement. Chacun le sait bien. Et donc, en tout cas, je suis très heureux, évidemment, de pouvoir avoir ce nouvel allègement. Et puis, j'espère qu'on va franchir des paliers progressivement.
Alors cet allègement, on peut en dire un mot peut-être, parce que tout le monde n'a pas forcément entendu vos propos de vendredi dernier. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce nouveau protocole sanitaire à l'école?
Si vous voulez, l'allègement, il concerne d'abord le protocole de la vie quotidienne et puis il concerne les tests. Donc s'agissant du protocole, on passe de ce qu'on appelle le niveau 3 au niveau 2 à l'école primaire. Et concrètement, ça veut dire notamment le fait que les enfants n'ont plus à porter le masque à l'extérieur, ce qui est quand même un très grand changement. Que les brassages sont moins contraignants, puisque auparavant on est obligé de rester en classe, entre élèves de la même classe par exemple, pour aller à la cantine. Désormais, c'est par niveau. Et puis, on peut refaire du sport en intérieur sans masque, sauf les sports de contact. Donc tout ça, ça fait des changements quand même qui, pour le quotidien, sont très importants. Mais j'espère bien évidemment que...
La fin du masque à l'intérieur, dans les écoles, dans les classes, vous commencez déjà à en parler, à y songer ou
bien sûr. Pour tout vous dire, j'en parle tout le temps, parce que c'est mon souhait le plus cher que le plus vite possible, ça puisse partir.
C'est envisageable à partir de quand?
Le 22 février, il puisse y avoir une nouvelle mesure d'allègement et que vous puissiez dire, au fond, si ça évolue bien, on enlève le masque à l'intérieur.
Non, je ne pense pas, parce qu'il faudrait pour cela avoir franchi encore plusieurs paliers de la situation sanitaire. Comme vous le savez, nous faisons cela en lien notamment avec la Haute Autorité de Santé Publique et on n'a pas de perspective à aussi court terme. En revanche, que ce soit quelque chose de possible au bout de plusieurs semaines, oui, je le crois. Et donc c'est très vraisemblablement, je emploie volontairement cet adverbe, ce qui va arriver avant la fin de l'année scolaire, oui, bien sûr.
Alors, avant la fin de l'année scolaire, quels sont les critères de la Haute Autorité? Ce que sont les mêmes critères pour nous tous, pour les enfants? Sur quoi vous vous fondez pour pouvoir alléger de nouveau? Est-ce que la fin de l'année scolaire, c'est pas un peu loin?
Alors, les critères de la Haute Autorité sont chacun...
Alors, même qu'on nous dit que le pass vaccinal pourrait être abandonné plus tôt.
Oui, c'est ça. Donc, on a... Vous le savez, depuis le début de la crise, nous cherchons toujours une cohérence entre les protocoles en milieu scolaire et les protocoles en population générale. C'est évident. Par exemple, le sujet du masque à l'extérieur en est un exemple. Et tout à l'heure, Thomas Snegaroff reprenait un peu la vulgate qu'on entend sur les protocoles baroques. Je conteste cet adjectif, puisque ces protocoles, ils sont articulés aux protocoles en population générale. Que tout ne soit pas toujours facile à comprendre, je veux bien tout à fait l'admettre, mais ils ont une raison d'être. Et là, en l'occurrence, le protocole scolaire est tout à fait cohérent avec ce qui est dit en population générale. Y compris sur le deuxième point que je n'ai pas encore abordé, c'est-à-dire les tests.
Parce que là, c'était un peu baroque. Les quatre tests pour revenir à l'école, autotest, etc. Ça, pour beaucoup de parents, c'était un peu difficile à comprendre.
Alors, c'est pas quatre, mais trois. Et sachez d'ailleurs que dans les discussions que nous avons eues, les fameuses discussions de fin décembre, il était question de 4 à un moment donné, et j'ai beaucoup insisté pour que ce soit 3, et, pour tout vous dire. Et donc, s'agissant des tests, on passe à un seul test, qui est fait à J2, puisque c'est en fait le moment le plus efficace, que souvent à J0, on constate que le test est négatif, alors qu'il sera positif deux jours plus tard.
Ça, c'est pour un enfant cas contact.
Un enfant de l'école primaire, dont se trouve dans la classe un enfant qui a été contaminé.
Gabriel Attal laisse entendre que ça peut s'arranger plus vite pour nous. Un certain nombre de personnes de l'opposition disent « Ah, comme par hasard, ça va s'arranger juste avant les élections, et les enfants, ça pourrait durer encore plus longtemps ?»
Non. À partir du moment où ça s'arrange en population générale, il y a évidemment une articulation avec ce qui se passe pour les enfants. Je dirais même plus, on a toujours voulu que les enfants soient à l'avant-garde, mais évidemment, dans le respect de leurs conditions de santé. Donc, on est à la fois désireux d'alléger le plus possible pour les enfants, et en même temps, désireux de les protéger au maximum. Donc, c'est ce double repère que nous avons. Encore une fois, il est éminemment souhaitable que le masque puisse être ôté aux enfants le plus tôt possible. Et donc, j'espère ce qui arrivera au printemps. Oui, voilà, c'est exactement. c'est la bonne formule.
Pourquoi est-ce que vous avez réussi cette fois à anticiper les annonces, à anticiper ce protocole sanitaire, parce que vous avez jusqu'à maintenant eu toujours beaucoup de difficultés à faire.
Non, prenez par exemple la rentrée de septembre. Nous avions dit fin juillet l'ensemble des éléments du protocole. Et ce que j'avais dit à l'époque, c'est premièrement définition du cadre fin juillet, qui d'ailleurs avait été très critiqué à l'époque pour différentes raisons dont on se rend compte a posteriori qu'elle n'était pas tout à fait juste. Et puis j'avais dit fin août, à quelques jours de la rentrée, nous dirons où est le curseur dans ce protocole. J'aimerais bien pouvoir faire autrement, mais il y a des moments où c'est impossible. Et évidemment, quand vous êtes en situation de croissance de l'épidémie, ce qui était le cas cet été ou ce qui était le cas lors des vacances de Noël, c'est pas du tout la même chose que quand vous êtes en état de décroissance. Là, on voit une décroissance venir, vous pouvez donc facilement anticiper des allègements qui, en plus, sont plus agréables à entendre pour tout le monde. Mais quand il s'agit d'un durcissement, par définition, vous essayez de faire le durcissement le moins fort possible, et pour le faire le moins fort possible, vous le faites le plus près possible du réel.
Mais est-ce que votre erreur, c'est de pas avoir dit au fond à Olivier Véran mais c'est inapplicable le protocole tel qu'il était, c'est-à-dire les trois tests laissés aux parents, le souci de les faire alors qu'il y avait des queues devant les pharmacies, est-ce que vous n'aviez pas intérêt à dire non ?
Non, vous savez, ce protocole, un des épidémiologistes internationaux les plus reconnus, suisse, qui a d'ailleurs été consulté pour l'évaluation générale de la politique française sur la gestion de la crise Covid, l'a qualifié d'intelligent. Il avait une rationalité très forte. Ce qui nous a manqué dans la première semaine de janvier, puis après les choses se sont normalisées, c'est les tests en pharmacie, en réalité.
Exactement.
Ce qui était
donc
odieux pour
les parents d'élèves,
c'était d'avoir à faire la queue en pharmacie. Vous reconnaîtrez que, malheureusement, je n'y suis pas pour grand-chose. Donc, ce qui a manqué lors de la première semaine de janvier, c'est pas tant l'anticipation. Je rappelle qu'à votre antenne, sur France Inter, j'avais dit le mardi qui précédait que l'évolution aurait lieu sur les tests, et que je serais obligé de dire au dernier moment les détails, puisque ça dépendait d'un avis du Haut Conseil de la Santé publique.
Et ensuite, Macron, qui prend souvent ses décisions à la dernière minute.
Non, pas du tout. C'est pas du tout. Emmanuel Macron avait, le lundi précédent, dans un conseil de défense, on avait fixé les grands principes. Et je rappelle que nous avions à ce moment-là donné au Conseil de la Santé publique la demande de nous préciser la façon dont on pourrait accomplir cela. Et le Conseil a donné sa décision le vendredi soir. Et tout ceci était anticipé quand même, c'est-à-dire que nous savions que ça reposerait sur des tests supplémentaires pour les enfants, et ce qui a manqué la première semaine de janvier, du fait de l'arrivée exponentielle de Omicron, c'est le nombre de tests suffisants en pharmacie. C'est cela qui a pêché la première semaine. Dès la deuxième semaine, les choses se sont à peu près normalisées, avec beaucoup de contraintes pour tout le monde, notamment c'est quelque chose d'épuisant pour les directeurs et directrices d'école, pour les professeurs, j'en suis complètement conscient.
Et pour les parents aussi.
Il faut d'ailleurs les saluer. Pour les parents aussi, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais vous savez, alors ce qu'on a bien dit dès le 15 décembre, c'est que janvier serait terrible. Nous le savions et nous l'avions dit. Et donc, j'aurais pu prendre la décision comme d'autres dans le monde de dire, ou de faire ce que Valérie Pécresse demandait, c'est-à-dire, on ferme. Vous savez, pour moi, depuis le début de cette crise, ça aurait été la solution de facilité très souvent. Parce que toutes les polémiques que j'ai eues ces derniers temps, elles ont été concomitantes d'un travail de l'UNESCO qui a dit, la France est le pays qui, l'un des grands pays qui a su ne pas fermer les écoles. On est un pays qui se situe dans les 10% de pays qui ont le moins fermé l'école.
Non, mais ça, c'est très bien. Mais il faut pouvoir assurer la protection des enfants et des enseignants
quand on laisse les écoles. C'est ce qu'on a fait. On a traversé le mois de janvier. Par exemple, il y avait un très grand défi du mois de janvier qui était d'assurer le remplacement. Est-ce que nous l'avons assuré parfaitement ? Non, bien sûr. Nous avons eu plein d'imperfections.
Mais la qualité de l'enseignement était quand même...
Vous ne pouvez pas, en période de crise extraordinaire, avoir des exigences de fonctionnement du service public exactement comme si on était en temps normal. On doit avoir une sorte d'union autour de ça. C'est-à-dire on fait le maximum en ayant comme but d'abord l'intérêt de l'enfant. Et puis, après, on explique pourquoi il y a des contraintes et pourquoi les choses ne se passent pas parfaitement sur le terrain. Et bien sûr, on peut toujours améliorer. Il y a certainement des défauts dans nos manières d'agir. Mais on ne peut pas être d'une exigence en quelque sorte accrue dans un moment où ce qu'il fallait, c'était traverser un cap Horn extrêmement complexe. Fort heureusement, il est derrière nous. Et c'est à peu près ce que nous avions dit dès décembre, que janvier serait très dur et qu'on espérait que février serait bien meilleur. C'est à peu près ce qui s'est passé.
Mais vous avez eu l'impression de protéger suffisamment les enseignants, par exemple les masques FFP2, qu'ils réclamaient dès la rentrée de septembre. Là, il n'y a rien de plus quand même.
Là, c'est pareil. Vous savez, c'est une doctrine en population générale. C'est, depuis le début, les autorités de santé disent que les masques FFP2, c'est pour les personnels soignants et qu'ils sont prioritaires, ce que chacun peut comprendre. Par ailleurs, ce qui était dit aussi, c'était que les masques FFP2 n'étaient pas très pratiques pour enseigner toute la journée. Et c'est vrai que porter toute la journée un masque FFP2 et parler avec, enseigner avec, c'est loin d'être facile. C'est d'ailleurs les remontées d'expérience.
Mais on pouvait l'assurer pour ceux qui le demandaient.
Et c'est ce qu'on fait maintenant, en effet. Et maintenant, les masques FFP2 sont distribués, notamment à l'école primaire. Mais ce que les professeurs attendaient davantage, je crois que c'était les FFP1, c'est-à-dire les masques chirurgicaux, plutôt que les masques en tissu.
France Inter. Question politique.
Jean-Michel Blanquer avec nous jusqu'à 13h en direct sur France Inter. L'une de vos grandes réformes, Jean-Michel Blanquer, c'est la réforme du bac. Mais celle-ci montre déjà quelques fragilité, quelques failles, notamment autour de la question des mathématiques. On va s'arrêter sur ce sujet qui concerne beaucoup de gens. On va prendre un peu de temps pour comprendre ce qui se joue. Et pour ça, je vous propose d'écouter ce qu'en disent deux mathématiciens, un député, Cédric Villani, Mediafield, et Jean-Pierre Bourguignon. Ils étaient tous les deux invités de la matinale de France Inter, de Nicolas Demorand et de Léa Salamé. C'était il y a 3 semaines. Et vous allez les entendre. Ils se montraient à l'époque très inquiets des effets de votre réforme.
Ce que je peux dire, c'est que ça faisait pas partie des recommandations que nous avions faites avec Charles Torossian sur l'évolution du cursus mathématique, mais quand l'idée m'a été présentée, j'avais trouvé que c'était une bonne idée. D'avoir un enseignement de sciences intégré en première, dans lequel on parle de mathématiques, non pas comme une discipline séparée du reste, mais intégrée à la physique, à la chimie, à la biologie, aux sciences naturelles, etc., comme j'ai pu le faire devant des dizaines de milliers d'audiences.
Mais vous entendez l'inquiétude aujourd'hui.
Mais ce que j'entends et ce qu'il faut bien constater, c'est que la mise en place a été ratée et qu'aujourd'hui, ça ne marche pas dans la grande majorité des établissements.
Je suis très inquiet par un effet secondaire, évidemment absolument pas voulu, mais on était arrivé après des efforts continus à ce que le pourcentage de jeunes filles dans les classes de terminale S soit pratiquement égal à celui des garçons. On était à 48%. Et là, il semble que avec la réforme, le pourcentage de jeunes filles qui ont choisi de faire des mathématiques plus intensives et dégringolé à 10%. Donc en 2 années, on a perdu 20 ans d'effort. Évidemment, ce n'était pas du tout l'intention. Mais on sait bien que les jeunes filles sont beaucoup plus, beaucoup plus exigeantes sur elles-mêmes. Et même si elles font des mathématiques avec plaisir, même si elles ont des bons résultats, elles se disent « oui, mais c'est trop dur pour moi ». Et ça, c'est dramatique. Et ça, je pense que...
Dramatique pour l'avenir de la discipline, hein ?
Pour l'avenir même de la France, je veux dire.
Dramatique même pour la France. On a écouté ici Jean-Pierre Bourguignon. Il faut quand même expliquer votre réforme. C'est la fin des premières S, terminale S et le choix de spécialité, d'enseignement de spécialité. Parmi ceux-ci, les mathématiques. Et l'un des effets qu'on considère comme étant peut-être de fragilité de votre réforme, c'est que de moins en moins d'élèves choisissent les mathématiques et en particulier moins en moins de filles. on a entendu, hein, en 20 ans, on a perdu, en 2 ans, on a perdu 20 ans de progrès.
Non, mais ce qui est complètement faux.
Des filles en mathématiques. Bah, alors,
non, mais si vous voulez, je suis très heureux.
Deux choses d'abord, la réponse à ça, et puis après, on verra sur, faut-il ou pas réformer tout de même votre réforme.
Alors, beaucoup de choses dans tout ce qui vient d'être dit. Moi, je suis très heureux que vous passiez cet extrait, aussi bien de Cédric Villani que de Jean-Paul Bourguignon, parce que ça dit beaucoup de la façon dont le débat public s'organise aujourd'hui. Il y a une phrase qui est extraordinaire, voire extravagante dans ce qu'on entend. C'est quand Jean-Paul Bourguignon dit « Il semble que on soit passé de la moitié des filles en terminale S à 10% dans l'enseignement spécialité. » Cette phrase, elle a été retweetée des milliers de fois. Elle est rediffusée comme vous venez de le faire. Elle est fausse.
Donc c'est pas vos chiffres.
Quand du milieu des mathématiciens vient une phrase comme « Il semble que... » Moi, j'ai été élevé au « si » et seulement « si » quand je faisais des mathématiques. Pas au « il semble que ». Et on dit 10%, alors que le chiffre, c'est 48,1%. Vous vous dites qu'il y a
alors
quand même un problème. Ben, je ne sais pas, c'est à M. Bourguignon qu'il faut le demander. Mais si vous voulez, on est dans le monde des fake news. Et on s'attend à ce que le milieu scientifique et mathématique vienne de l'information complètement vérifiée. On ne peut pas organiser le débat public avec de telles choses fausses. Donc je demande à M. Bourguignon d'abord de rectifier ce qu'il a dit. Et je mets tous les chiffres devant tout le monde. Mais de créer une sorte de panique dans la population en donnant des chiffres inexacts, ce n'est pas bien. Par ailleurs, souligner qu'il y a eu un déclin des mathématiques dans notre pays, c'est tout à fait juste. Le premier à le faire, c'est moi.
Et qu'on est mal placé dans la compétition internationale.
On est mal placé dans la compétition, en tout cas en population générale, si je puis dire. Il y a le sujet, disons, du niveau général de la population et le sujet du niveau d'excellence de ceux qui vont faire des études scientifiques. C'est sur ces deux critères qu'il faut regarder tout ce que nous faisons. Alors, j'y reviens parce que je rappelle que tout ce que nous faisons en mathématiques, nous le faisons, comme Cédric Villani l'a rappelé lui-même, sur la base d'un rapport qu'il a fait. Et que, évidemment, nous avons mis en œuvre. Alors, quand on dit, je suis toujours un peu, vigilant quand on dit, oui, l'idée était très bonne, mais elle a été mal appliquée. Non, on a, depuis 4 ans, mis en œuvre, stricto sensu, le rapport Villani-Torossian. Monsieur Villani a changé de parti, mais c'est pas pour autant que le rapport a changé. Et nous avons aujourd'hui...
Il dit que c'était pas dans le rapport.
Un début, oui, mais sur les mathématiques... Il a dit aussi que sur la réforme du baccalauréat, nous en avions parlé. Et d'ailleurs, il a un jugement très, je dirais, équanime sur ces questions. Hein. Il dit pas des choses radicales, parce que le sujet mérite de la subtilité. Et d'ailleurs, moi-même, je suis très ouvert. Hein. Et d'ailleurs,
mais au final, il dit quand même que c'est un échec. Enfin, c'est ses derniers mots.
Non, mais c'est un échec si on dit des chiffres faux. Si on dit que s'il y a 10% de filles, on a raison de dire que c'est un échec, mais c'est pas vrai.
Alors,
je vais vous donner un. Alors, si vous voulez, j'ai besoin justement d'un petit peu de temps pour faire l'exposé général que j'ai pas pu faire encore depuis que cette polémique a éclaté. Premièrement, et en commençant tout de suite par la fin, c'est-à-dire en disant je suis très ouvert aux évolutions futures, puisque mon but n'est pas de dire que tout va très bien, mais mon but est de dire que nous avons commencé un rebond et qu'il faut accentuer ce qu'il y a de positif à faire et éventuellement infléchir certaines choses, j'y suis tout à fait prêt. S'agissant du premier objectif, c'est-à-dire le niveau général de la population en mathématiques, ça commence évidemment à l'école primaire, et c'est là qu'on a accompli très fortement le rapport Villani-Torossian, c'est-à-dire nous avons fait un plan mathématique, qui est notamment un plan de formation des professeurs, et qui est extrêmement volontariste. On me l'a d'ailleurs parfois reproché en disant que ça prenait trop de temps trop de maths dans la formation continue des professeurs des écoles. C'est d'ailleurs sans doute la caractéristique de mon métier que d'avoir des critiques totalement contradictoires les unes par rapport aux autres. Mais donc on a eu ce plan volontariste. On a eu aussi des méthodes nouvelles. On a sorti toute une série de références en mathématiques pour remettre un peu les choses d'équerre. C'est le cas de le dire. Et nous avons ensuite commencé avec nos évaluations de début de CP, de mi-CP, de début de CE1 et de début de 6e à pouvoir mesurer ce qui se passait sur chacune des sous-compétences qu'il y a dans les compétences mathématiques. Par exemple, les petits Français sont trop faibles en résoudre un problème complexe. Bon, toutes ces choses-là sont mesurées pour tous les enfants de France à chaque début d'année. Et d'ailleurs, on a vu en septembre 2020 une baisse du niveau liée au premier confinement, une interférence de la crise Covid sur cela. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de 2017 à 2021, à septembre 2021, nous avons constaté un progrès sur chacun de ces ensembles. Donc nous reprenons une route de progrès, y compris sur un plan structurel, par la formation des enseignants.
Alors ça, c'est pour
ensuite,
les tout-petits.
Ça, c'est pour les petits, mais Dieu sait que c'est essentiel, puisque c'est cela qui fait qu'ensuite, on, ne serait-ce que connaître ces quatre opérations, résoudre un problème complexe, faire des fractions...
Les tout-petits deviendront grands, mais alors maintenant les grands.
Mais maintenant ensuite, les grands, voilà,
alors, au bac. Ce que je reconnais, c'est qu'au collège, nous n'avons pas spécialement fait évoluer les choses, et qu'il y a certainement encore à faire. Je pourrais évidemment en parler aussi. Mais ensuite, sur le lycée...
Vous allez rajouter une spécialité en mathématiques.
Je rappelle sur l'esprit de la réforme du baccalauréat. C'est donner plus de liberté aux élèves pour hausser l'exigence. C'est-à-dire, puisqu'ils choisissent leur passion, ils peuvent aller plus loin. C'est exactement ce que nous avons fait dans les matières mathématiques et scientifiques. C'est-à-dire que chacun regarde le programme de maths d'avant et celui de maintenant, que chacun regarde le programme de physique-chimie ou le programme de SVT, ou même les nouvelles disciplines comme numérique et sciences informatiques qui n'existaient pas auparavant. À chaque fois, c'est plus exigeant qu'auparavant. Et ça, chacun le reconnaît. Par ailleurs, prenez ceux qui vont le plus loin, si on est sur le deuxième objectif, c'est-à-dire l'excellence. Eh bien, autrefois, en terminale S, si vous poussiez au maximum, vous faisiez 8 heures. Aujourd'hui, vous faites 9 heures. Et il n'y a pas moins d'élèves qui le font. Donc, ce que vous avez, c'est un programme plus exigeant avec plus d'heures. Et d'ailleurs, vous commencez à voir, même si on est au tout début, bien entendu, les premiers témoignages de professeurs de l'enseignement supérieur disant qu'ils constatent, malgré la crise Covid, un petit renouveau du niveau mathématique des élèves qui leur arrivent en CPGE. Et entre parenthèses, en classe préparatoire. En classe préparatoire, il y avait 25... D'abord, le nombre d'élèves est resté stable. En classe préparatoire,
ça baisse un peu.
Pour les écoles d'ingénieurs, on est passé de 25,6% de filles à 26,8%. Comme baisse, on fait pire quand même. Et si je prends les prépas pour veto agro, ce qu'on appelle BC, PST, est passé de...
Donc Jean-Michel Blanquer, tout...
Alors, d'accord, le nombre de filles est resté le même. C'est-à-dire majoritaire.
Mais
si vous prenez maths complémentaires, en première et en terminale, les filles sont 62,6%.
Mais alors pourquoi est-ce que vous avez ouvert
médecine,
mais pourquoi vous ouvrez la porte du coup à cette réforme qui est formidable
que, mais parce que rien n'est jamais parfait et puis d'abord parce que j'ai très envie de mettre tous ces chiffres sur la table de façon à ce qu'on arrête.
Donc ça changera pas. Alors il y aura pas plus de maths
parce que je pense
commun.
Je vais vous dire. Je pense que là où il y a une amélioration à faire, et on le voit dans le propos de Cédric Villani, c'est dans le fait de savoir si en première et en terminale, il faut quand même continuer à donner un enseignement de maths de base pour ceux qui ensuite ne feront pas des études scientifiques.
Et ça, vous êtes ouvert.
Ça, bien sûr. Cédric Villani le dit un peu. Il dit, c'était très bien de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire un enseignement scientifique de 2 heures dans le tronc commun.
Où il n'y a pas vraiment de maths.
L'objectif, si vous voulez, c'est aussi de quelle maths on parle. Par exemple, si je vous parle de maths complémentaires il y a un instant, c'est des probabilités, des statistiques qui vont être utiles dans les études de médecine ou même dans les études d'économie. Si, dans ce qu'on met dans le bloc scientifique commun, c'est-à-dire pour tout élève, même ceux qui ont une aversion pour les maths, et pardon, ça existe, et faut les entendre aussi, ceux-là, on a besoin de leur mettre des maths concrètes, des maths qui correspondent à la vie. Et donc, il y a probablement des choses... Et on a essayé de faire ça, mais peut-être l'a-t-on mal fait, il faut déjà avoir une évaluation. Je vous rappelle que, contrairement aux accusations d'être autoritaire, vertical, etc. depuis le début, nous avons fait un comité de suivi du baccalauréat qui fonctionne depuis le début de la réforme et qu'on a fait déjà beaucoup d'ajustements de ce genre, non pas parce que les choses étaient nulles et qu'il fallait remettre les choses comme avant, mais parce que on est pragmatique, on écoute le terrain et puis on à partir de là, on avance. Mais ce qui est terrible dans notre pays, si vous voulez, c'est que tout le monde depuis 20 ans disait que le baccalauréat était à bout de souffle tel qu'il était. Vous aviez des milliers d'élèves qui prenaient la série S pas pour de très bonnes raisons, mais parce qu'il y avait une sorte de prestige qui était attaché, et qui ensuite faisait des études qui n'avaient rien à voir avec les études scientifiques. Il y a une étude de la semaine dernière qui montre qu'ils étaient 50% environ à suivre des études scientifiques après. Aujourd'hui, ils sont plus de 80%. Autrement dit, l'objectif important de la réforme, qui était justement d'avoir un plus grand pourcentage d'élèves qui, ayant fait des sciences, pour des raisons valables au lycée, continuaient ensuite les sciences pour eux-mêmes et pour notre pays... Eh bien ça, ce pourcentage-là a considérablement augmenté. Donc au moment où on commence à apporter les premiers débuts de réponse à des problèmes pointés depuis 30 ans, et où tout le monde disait, de toute façon, on n'y apportera jamais parce qu'il y aura trop de protestations pour celui qui le fera, eh bien, effectivement, c'est ce genre de contestation arrive, et tout le monde a envie que je recule devant ça. Ben, je pense que...
Non, mais c'est quand même un problème que les filles désertent les filières scientifiques.
Mais elles ne les désertent pas. Si c'était vrai, vous auriez raison. Ce qui est vrai, c'est qu'on part d'une situation qui pourrait être... qui est pas bonne. C'est-à-dire, quand je vous dis 25% de filles, ou 26,8 aujourd'hui en classe prépa, c'est pas satisfaisant. Bien sûr qu'il faut aller vers 50%. Et bien sûr qu'on a du travail à faire. Mais
la pente est dans la bonne direction, selon vous.
Nathalie, c'est une direction qu'il faut maintenant accentuer, certainement.
Deux choses, Jean-Michel Blanquer. Vous avez parlé de passion en parlant des lycéens. Est-ce que ça doit être le critère premier ou est-ce qu'il faut, même si ça leur plaît pas, orienter un certain nombre d'élèves vers des métiers dans lesquels ils sont sûrs de trouver du travail? On a l'impression qu'il y a à la fois le plaisir des études, et puis à d'autre côté, il y a des offres d'emploi non pourvues. Est-ce qu'il ne faut pas les forcer ou les orienter vers quelque chose qui leur donnera la chance d'avoir forcément un travail?
C'est évidemment une grande question.
Est-ce qu'on peut oser le dire? Parce qu'on a toujours considéré que l'université ou le lycée, c'était pas la formation pour le MEDEF, comme on disait dans le temps.
Je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux objectifs. C'est possible de les articuler, en ayant d'ailleurs la vision baccalauréat général, baccalauréat technologique, baccalauréat professionnel et apprentissage. Parce que dans le débat public, on parle toujours du baccalauréat général et on oublie le reste. La réforme de la voie professionnelle que nous avons faite est d'ailleurs de même inspiration que celle du baccalauréat général et technologique. C'est-à-dire permettre à l'élève de se poser des questions plus tôt, pas pour se prédéterminer trop tôt, parce que c'est de toute façon ni souhaitable ni possible, mais en tout cas pour commencer à tâtonner, commencer à faire des choix et ensuite pouvoir les préciser. C'est ce que nous demandons de faire à un élève de 16 ans aujourd'hui en seconde. On lui dit pas « quel métier veux-tu faire ?». Certains le savent, mais c'est une minorité, et ce serait stupide que de vouloir demander ça à un élève. En revanche, lui dire qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas est déjà une première question très importante pour commencer à se repérer. Et c'est aussi pour ça qu'en fin de première, on peut abandonner un enseignement de spécialité, parce que c'est justement, on a en quelque sorte testé quelque chose. Est-ce qu'ensuite, il y a une adéquation entre les flux qui sont ainsi provoqués et les besoins de la société française et la possibilité d'embauche pour tout le monde ? Eh bien oui, je le pense, parce que nous devons faire des incitations. J'ai cité tout à l'heure numérique et sciences informatiques. C'est une matière nouvelle que nous avons créée. Voilà le genre de choses qu'on a créées grâce à la réforme du baccalauréat. Parce qu'il y aura besoin de beaucoup d'informaticiens dans le futur. Et il y a besoin qu'il y ait beaucoup plus de filles que jusqu'à présent qui en fassent. Auparavant, vous n'aviez aucun moyen d'inciter les filles à aller spécialement en informatique. Et souvent, comme on se détermine plus tard, les inhibitions sont plus fortes. Tandis que maintenant, on est en situation de dire à une jeune fille de seconde, mais va en numérique et sciences informatiques. C'est pour toi, tu en as tous les talents et il y a beaucoup de travail pour ça. Donc on a la possibilité d'avoir cet encouragement. S'agissant du baccalauréat professionnel, nous allons complètement dans le sens que vous dites. Nous avons fermé beaucoup de formations qui ne mènent nulle part et nous en créons.
Quoi, par exemple ? C'est juste pour que je comprenne ce qui mène nulle part et ce qui mène quelque part.
Vous avez parfois des formations, disons, de nature gestion et administration qui peuvent mener quelque part pour certains, mais pas pour tous les élèves qui y allaient jusqu'à présent. Eh bien, on a fermé beaucoup de formations de ce type. En revanche, dans le domaine industriel, dans des domaines où il y a des métiers en tension, nous avons créé des formations et surtout nous leur donnons beaucoup plus de prestige et d'avenir. Exemple, on a créé 80 campus professionnels d'excellence dans toute la France. J'étais vendredi dans les écuries de Versailles, dans le lieu très prestigieux en face du château de Versailles, où il y a maintenant des ateliers professionnels correspondant aux métiers d'art. Il y avait des forgerons, des sculpteurs, des couturiers, autant de métiers où il y a des besoins. Et bien on a créé dans les écuries de Versailles quelque chose qui met en réseau les lycées professionnels de l'Ouest parisien pour qu'ils viennent ici s'entraîner et aussi que ce soit un lieu pour faire de l'information et de l'orientation des élèves de collège. Et bien, voilà qui fait progresser les choses. Et bien sûr qu'il faut aller dans la direction que vous dites, puisque tout simplement, c'est l'avenir de nos enfants que de leur permettre d'avoir des formations qui correspondent à des besoins.
France Inter. Hashtag Question Paul.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, faut pas oublier ces deux dimensions-là. Avec nous jusqu'à 13h, on va parler justement de vivre ensemble, de cancel culture, de wokisme. Et la première question, elle est posée par Laure Murat, historienne, professeure au département d'études françaises et francophones à l'Université de Los Angeles et auteure de Qui annule quoi au seuil. Elle vous pose une question à vous, Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Monsieur le Ministre. Depuis la mort de George Floyd, des centaines de statues sont tombées dans le monde pour protester contre une incohérence des gouvernements qui condamnent officiellement les violences racistes, mais les célèbrent dans l'espace public à travers des figures du colonialisme, de l'esclavage ou du suprématisme blanc. Emmanuel Macron refuse tout dialogue sur cette question au motif que supprimer une statue, ce serait supprimer un nom de l'histoire. Mais le nom du maréchal Pétain, par exemple, appartient bien, qu'on le veuille ou non, à l'histoire de France. Pour autant, verrait-on des statues à son effigie et des rues à son nom ? Bien sûr que non, car les gouvernements d'après-guerre se sont empressés, à juste titre, d'effacer l'image et le symbole du déshonneur de la France dans l'espace public. Ma question sera donc, doit-on laisser à l'État le monopole d'annuler et d'exercer donc une forme de cancel culture, ou n'est-il pas temps de lancer une réflexion et un vrai débat serein et argumenté sur les contradictions idéologiques républicaines ?
Jean-Michel Blanquer.
Écoutez, des choses énormes viennent d'être dites très calmement. Et donc je vais y répondre calmement. D'abord, l'écouter me réveille un souvenir, parce que je crois que j'ai connu Laure Murat quand j'avais 20 ans. Et je crois avoir fait des photos de Paris avec elle, de monuments de Paris. C'est une sorte de coïncidence, mais sauf si c'est une homonyme, je me souviens d'avoir admiré la beauté de Paris et de ses statues avec elle. Elle porte par ailleurs un nom très...
Les statues de Colbert aussi.
Probablement. Elle porte un nom prestigieux d'un maréchal d'Empire. Et si on se met à faire le screening, pour faire le seul américanisme que je ferai de cette émission, de tous les personnages historiques en regardant leurs qualités et leurs défauts, alors la cancel culture peut nous amener, deuxième américanisme, à faire toutes les destructions de statues possibles, comme dans les pires périodes iconoclastes que l'humanité a connues, puisque cette querelle-là n'est pas complètement nouvelle, vous qui êtes historien, du point de vue de l'histoire de l'humanité, puisqu'il y a très régulièrement des querelles entre les iconoclastes et ceux qui pensent qu'il ne faut pas détruire ce qui est beau. Alors,
Il ne s'agit pas que d'esthétique.
Oui, justement. On ne doit pas confondre les registres. D'ailleurs, il y en a trois, là, en l'occurrence. Il y a le registre de l'histoire, il y a le registre des statues et donc de leur caractère esthétique, et puis il y a le registre de la vie courante. Sur le registre de l'histoire, bien entendu qu'il est loisible à chacun, et à Laure Murat comme à quiconque, et notamment aux historiens professionnels, que de revisiter toutes les périodes de l'histoire et de voir ce qu'il en est, sans y plaquer, d'ailleurs, forcément nos a priori idéologiques. Vous voulez exiger des hommes préhistoriques qui soient féministes, exiger à chaque siècle qu'il ait exactement les mêmes critères que les nôtres, c'est d'une certaine façon de faire comme si nous étions des saints et nos ancêtres des nuls. Je ne crois pas que ce soit le cas, et d'ailleurs je ne trouve pas que architecturalement nous fassions des choses beaucoup plus belles que ce que faisaient nos ancêtres des siècles précédents. Donc il faut un peu d'humilité, je trouve, de nous-mêmes dans l'histoire de l'humanité. Que penseront nos descendants de nous-mêmes? Est-ce qu'ils feront de la cancel culture avec nous parce que nous n'aurions pas exactement les mêmes critères que ceux du 22e ou du 23e siècle? Que chacun se pose ce genre de questions aussi. Donc les anachronismes sont les ennemis de l'historien sérieux, et on doit faire très attention à ça dans le cadre de la science historique, et en n'étant pas dupe du fait qu'il y a des sujets idéologiques qui viennent se greffer, y compris dans la vie académique des historiens. Ça, c'est un sujet. Ensuite, que les statues qui existent dans nos villes ne soient pas que des statues de saints, je crois qu'il faut l'accepter. Alors après, qu'il y ait des personnages épouvantables et que la question se pose, c'est possible. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire. Mais je pense qu'on ne doit pas avoir le marteau trop facile. Et je pense qu'il faut avoir... Je préfère le burin au marteau, si vous voulez. Et je pense que je préfère construire que détruire. Vous savez, le mot annulation, le mot cancel... Et pas un mot qui me plaît beaucoup. Je crois qu'il faut accepter que nous sommes les héritiers d'une histoire humaine faite de bien des imperfections, et qu'on n'a pas à vouloir tout casser pour des raisons qu'il faudrait d'ailleurs savoir expliciter, que ce qui se joue derrière ça, quelle haine de soi du monde occidental se joue derrière justement ce que l'on vient d'entendre, c'est évidemment, à mon avis, la principale question.
Alors, on va justement élargir à ça.
La gauche vous reproche un peu de mener le combat contre la cancel culture, contre le wokisme, alors qu'une étude de sociologue montre qu'auprès des jeunes, finalement, le phénomène est assez marginal. Est-ce que vous n'êtes pas en train de grossir un phénomène en France? Pourquoi vous êtes si inquiet?
Et juste, pardonnez-moi, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde, est-ce que vous pouvez définir en quelques mots ce qu'est, selon vous, le wokisme?
Alors, c'est pas selon moi, d'ailleurs, je pense qu'il y a une des définitions qui existe, mais je crois que, malheureusement, c'est un mot qui est de plus en plus connu, même si... Évidemment, on m'oppose parfois son étymologie, c'est-à-dire le fait que ça veut dire éveiller, que c'est évidemment un joli mot de ce point de vue-là, et qu'il s'agit de lutte contre les discriminations, et on est tous, et je le suis, évidemment, pour la lutte contre les discriminations, sauf qu'il y a différentes façons de lutter contre les discriminations. Et d'ailleurs, il y en a notamment deux grandes catégories. Il y a une catégorie républicaine, qui est basée sur le fait que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et donc on a des droits de l'homme et des droits du citoyen, voilà, c'est un peu classique sans doute de dire ça, mais voilà, je reste fidèle à ça. Et puis deuxièmement, on peut lutter contre les discriminations parce qu'on va chercher chez chacun ses appartenances multiples qui feraient une sorte de concurrence dans le degré de d'être une victime ou une potentielle victime du fait de son identité. Ce combat-là, il est sans fin. On va tous pouvoir trouver des raisons d'être victime dans la vie et d'aller faire des revendications à côté de ça. Si je prends la lutte contre l'homophobie, par exemple, qui est un sujet extrêmement important que j'ai pris à bras-le-corps depuis que je suis ministre, mais je le fais au nom de principes républicains, tout simplement parce qu'on est tous égaux, que chacun a droit d'avoir l'orientation sexuelle de son choix. Et c'est très simple de dire ça, quand même.
Ça voudrait dire tandis quoi, que de si lutter je dois contre le faire... l'homophobie de manière non républicaine?
C'est par exemple en réclamant des choses... C'est par exemple le défilé qu'on a eu à Lyon, où vous avez devant... alors j'ai oublié les catégories d'ailleurs, mais enfin vous mettez dans un défilé les gens qui ont telle couleur de peau, telle orientation sexuelle, puis au deuxième rang ceux qui ont telle autre orientation. Bref, vous fractionnez la société, vous distinguez les gens selon leurs des appartenances multiples au lieu de les définir d'abord par leur qualité d'être humain et de citoyen.
C'est bon, mais on est sur des choses aussi en France, non, quand même.
Mais
il
non,
est pas si important.
Si vous regardez ce qui, moi vous savez, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai vécu en Amérique latine. J'ai vu des phénomènes de ce genre. Dès les années 90, j'ai vu monter des choses de ce genre, des choses qui tuent la fraternité, même sur les campus, parce que vous êtes dans le soupçon, parce que vous êtes à toujours vouloir chercher presque dans une vision paranoïaque ce qui ne va pas.
Mais là, on parle de la France. Est-ce que vous pouvez mesurer le wokisme en France chez
parfois,
les jeunes en particulier,
sont,
parce que
parfois,
l'Institut Montaigne dit dans une récente étude que.
Mais je me réjouis. Oui, mais alors. Elle est très vous avez tout à fait raison de citer cette étude qui est extrêmement intéressante parce que, par ailleurs, je ne suis pas un pessimiste. Pas du tout. Moi, je vais à la rencontre des jeunes en permanence. Je passe ma vie à ça. Et je dis toujours, j'ai envie d'avoir une caméra sur le front pour que les Français voient ce que je vois. C'est-à-dire des jeunes qui ont envie d'être entrepreneurs de leur vie, de maîtriser leur destinée, qui ont des bons principes, qui sont généreux, qui ont envie de s'engager. Et justement, pour les genres de lutte dont je viens de parler, et l'écologie, évidemment, en particulier, tout ça est très positif. Et donc, la question est celle des grilles de lecture qui leur sont proposées pour mener les combats de leur génération. Et moi, mon rôle, c'est quand même, à la fois comme responsable politique généraliste, si je puis dire, et comme ministre de l'Éducation nationale, c'est d'être attentif à ce que ce ne soit pas de mauvais logiciels qui s'insinuent dans la société française.
Justement, pour que pas de mauvais logiciels ne s'insinuent, à quel endroit il faut sévir ? Est-ce qu'il faut faire des tribunes dans le monde ? Est-ce qu'il faut interdire symboliquement aux hijabeuses qui le réclament la possibilité de porter le voile ? Alors vous me direz que tout ça, on progresse, c'est pas exactement le même sujet. Lors des compétitions, c'est-à-dire quelque chose qui est donné à voir à tout le monde, est-ce qu'il faut changer les profs ? Où est-ce que vous vous situez exactement ? Quels sont vos outils ? Et est-ce que du côté du gouvernement, tout le monde est d'accord avec vous ? Je pense dans le sport à Roxana Maracena à nous, je pense à Elisabeth Moreno sur un certain nombre de sujets. Est-ce que vous vous battez seul ? Comment pouvez-vous vous battre ? Et est-ce que vous trouvez que ça monte un peu de partout ? Je sais que la question est grande.
Elisabeth Moreno ayant pris position en faveur du fait que certaines athlètes puissent porter le hijab lors d'événements sportifs, ça a été critiqué au sein du gouvernement, peut-être par vous.
Alors, il y a bien des questions dans
oui,
vos questions.
Oui, je suis désolé, j'en ai profité.
Je vais m'efforcer d'y répondre. D'abord, sur le premier point, sur au fond, les outils de ce qu'il y a à faire dans ce débat. Comme souvent, quand il s'agit de se battre pour la liberté face à des gens qui ne sont pas toujours des amis de la liberté, les outils ne sont pas les mêmes. Donc, il ne s'agit certainement pas d'être soi-même dans une culture de l'interdiction. Il faut défendre la liberté par la liberté. Mmh. Donc, ce qui se joue beaucoup, c'est la présence dans le débat public. C'est aussi d'organiser ceux qui pensent de cette façon, c'est pour ça que j'ai créé le laboratoire de la République, c'est-à-dire pour que on soit pas seulement des individus à réagir face à des choses qui nous paraissent folles, mais qu'on soit au contraire en situation d'abord d'avoir de la maîtrise intellectuelle du sujet, parce que ce sujet est un sujet profondément académique et intellectuel qui ensuite a des conséquences concrètes sur la société. Donc c'est pour ça que j'ai créé cela, et c'est pour ça que je parle avec des intellectuels, des académiques, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'un côté une espèce de grande lame de fond qui nous vient des États-Unis et de l'autre des individus éparpillés qui disent juste ouh là là, il nous arrive quelque chose d'absurde, c'est pas bien, mais que fait-on ? Non, il faut maintenant agir. Et agir, ça signifie justement renforcer ce que je pourrais appeler le logiciel républicain et montrer à tous les jeunes, et je sais qu'ils sont très ouverts pour ça, qu'on a un trésor merveilleux en France qui s'appelle la République. Et que cette idée républicaine, loin d'être désuète, d'être obsolète, comme certains voudraient nous le faire croire, et on sait bien que du côté des États-Unis, ce modèle français républicain, il interroge depuis fort longtemps, même s'il y a aux États-Unis aussi une tradition qui correspond exactement à la nôtre. Et je veux aussi travailler avec des intellectuels de l'autre côté de l'Atlantique sur ces questions. Mais donc même si nous savons bien tout ça, eh bien, nous devons aujourd'hui être beaucoup mieux organisés pour montrer aux jeunes que, oui, on peut construire un monde fraternel, un monde qui crée un futur, et pas un monde nihiliste, en pensant l'écologie, l'égalité entre tous et les hommes,
et
les femmes.
Ils n'ont pas votre définition de la République. Parce que les jeunes, par exemple, sur les jeunes footballeuses qui portent un hijab, ils n'y sont pas opposés. Il y a bien longtemps qu'ils ont des camarades musulmanes à côté d'eux dans les salles de classe et ils trouvent tout à fait légitime, si elles ont envie, de porter un hijab pour les compétitions de football.
Non, quand ils sont dans leur salle de classe, on respecte la loi de 2004.
Je n'ai pas dit qu'elles portaient les hijabs à ce moment-là. Je dis simplement qu'ils ont l'habitude d'avoir des camarades de confession musulmane à côté d'eux. Et ça leur
beaucoup de jeunes femmes musulmanes qui sont très 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 contente qu'il existe en France une loi qui est la loi de 2004.
La question était longue, mais c'est... les hijabeuses, pardon François.
Est-ce qu'il faut réformer l'enseignement supérieur ou agir au niveau de l'enseignement supérieur quand vous vous dites aussi inquiet sur le phénomène du wokisme ? Est-ce que vous pensez que certains profs dans l'enseignement supérieur propagent cette doctrine ou pas ?
Et le voile à l'université,
même si je le pense, même si je le pense, ce qui est votre dernière question, je n'en tire pas les conséquences de votre première question. C'est-à-dire que, précisément, parce que la liberté académique, c'est très précieux. C'est tout le problème avec ce genre de sujet, c'est que ça peut vous amener... vous savez, il se passe avec le terrorisme intellectuel, ce qui se passe avec le terrorisme tout court. C'est-à-dire que vous ne devez pas...
vous êtes dans la conviction, plutôt. C'est plutôt...
Bien entendu, il faut être...
La pédagogie.
Il faut être dans la liberté, il faut respecter... Il n'y a rien de plus précieux que la liberté académique, c'est d'ailleurs un principe constitutionnel. Hors de question de faire une sorte de maccartisme sur ces sujets. Si, aujourd'hui, ce que vous avez, c'est un maccartisme inversé. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des atteinte à la liberté des étudiants ou des professeurs. Si vous pensez pas juste, vous avez des étudiants qui me racontent que ils se trouvent en quelque sorte isolés dans les fêtes, dans des trucs, parce qu'ils ne pensent pas comme des secteurs très militants de leur université.
Est-ce que vous êtes isolé au gouvernement parce que vous pensez pas comme la majorité ?
Et moi, ma référence, prenez le discours des Mureaux du président de la République. C'est le moment où il explicite le plus sa pensée sur cette question. Mais ce discours me va. J'étais au premier rang, devant lui. J'ai encore tous les mots dans la tête. Ils ne sont pas différents de ce que je viens de vous dire.
Donc les hijabeuses qui demandent la possibilité de, en compétition, jouer avec leur tenue, est-ce que vous êtes du côté Maracine et Anu Moreno ou de votre côté ?
Non, je pense que...
Quel est-il ?
Depuis de très nombreuses années, et notamment depuis 1989 et l'affaire de Creil, on a une pression dans l'espace public pour essayer d'expliquer que la question du voile n'est qu'une question individuelle, comme s'il n'y avait pas eu des groupes islamistes qui ont cherché progressivement à conquérir l'espace public sur cette question. Et soit on est dans le déni de ce sujet, soit on le regarde en face. Et c'est comme ça qu'on a des quartiers entiers qui ont pu être caractérisés, pas seulement par ça, par l'interdiction d'aller dans des bars pour des femmes, etc. Donc par des choses qui violent un point essentiel de notre République, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, et quelque chose à laquelle la France est particulièrement attachée, la cause féminine. Je suis d'ailleurs estomaqué d'avoir, en 2022, à défendre des choses aussi simples que ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et sur l'égalité homme-femme toute simple. Soyons simples sur ces sujets, n'allons pas chercher midi à 14h. Et donc, il est évident qu'on voit là de nouveau un collectif qui s'est organisé pour faire de la pression. Leur affaire va aller devant le Conseil d'État. Ce que je voudrais dire, c'est que nous nous sommes mis, ce gouvernement, en situation beaucoup plus que les gouvernements antérieurs, parce que sur ce sujet aussi, il y a eu beaucoup d'inaction, avec de belles exceptions comme la loi de 2004. Nous avons fait énormément sur cette question, et notamment le contrat d'engagement républicain qui fait partie de la loi confortant les principes de la République à laquelle j'ai contribué. Eh bien, ce contrat d'engagement républicain nous a permis de faire 25 000 contrôles. Au titre de cela et d'autres titres, on a fait 25 000 contrôles depuis le début du quinquennat sur des établissements, des institutions. Nous sommes capables aujourd'hui de demander à une fédération, par exemple, de signer un contrat d'engagement républicain qui signifie qu'il n'y a pas de fondamentalisme ou de prosélytisme religieux dans l'exercice courant du sport. Nous nous sommes donc donné des outils juridiques, dans le cadre de l'état de droit, pour éviter ce type de phénomène.
Donc. Pour les hijabeuses, est-ce que vous faites comme la FFF ?
C'est
la Fédération française de football qui...
Oui, non, mais la FFF
considère qu'on ne peut pas
faire... La FFF a tout mon soutien sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. D'ailleurs, c'est une fédération qui a un rôle essentiel dans notre société. Elle a évidemment tout mon soutien. Et maintenant, il y a un contentieux. Je pense qu'ils ont les outils juridiques pour trancher. Mmh. Et ne disons pas que nous n'avons rien fait sur ce sujet. Avec cette loi confortant les principes de la République, nous donnons un cadre juridique plus solide à tous les acteurs.
Jean-Michel Blanquer, cette semaine, vous avez nommé à la tête du Conseil supérieur des programmes Marc Sheringham, qui est un philosophe. Ça fait grincer pas mal de dents, je crois. Il avait déclaré, notamment en 2009, l'école laïque française est l'héritière de l'école chrétienne. Et quelques années plus tôt, en 2004, alors directeur de l'UFM d'Alsace, il avait déclaré « La religion n'est pas seulement un problème culturel, mais bien une voie d'accès à la question des finalités ultimes de l'humanité. Est-ce que ça n'entre pas en contradiction avec la laïcité que vous défendez ?»
Non. Vous savez, j'ai eu le même type de critique quand j'ai nommé son prédécesseur, qui est Souad Ayada, qui vient de partir comme présidente du nouveau de la nouvelle structure sur l'islamologie en France. Et d'ailleurs, je salue tout le travail qu'elle a fait et ce qu'elle va faire maintenant. Ce qui, ce type de question soulève au fond une fausse contradiction qu'on ferait entre laïcité et questions religieuses. Non seulement ça ne se contredit pas, mais au contraire, ça va ensemble. La laïcité, elle n'existe pas pour, c'est pas un athéisme d'État, la laïcité. La laïcité, c'est permettre justement la liberté religieuse et la neutralité de l'État par rapport aux questions
religieuses. Et il parle en particulier du christianisme.
Oui, oui, mais je veux dire, la première phrase que vous citez, elle est une phrase d'historien plus qu'autre chose. Si vous prenez l'école publique, elle est héritière de ce que les jésuites, qui eux-mêmes sont allés en Chine au XVIIe siècle et en ont ramené un certain nombre de principes, ont fait sur le plan scolaire. Et ensuite, l'école publique a été héritière de ça. C'est un fait historique. De même, à partir de la Troisième République, on voit très bien l'école publique imiter des choses qui se passaient précédemment, des choses que Victor Duruy avait pu faire quand l'Église catholique était reliée au Second Empire et qui sont en quelque sorte laïcisées par la Troisième République. Reconnaître cet héritage n'a rien d'anti-laïque. Et sur sa deuxième phrase, c'est tout simplement le fait de ne pas nier le besoin métaphysique de l'homme. Et heureusement que qu'il ne faut pas le nier. Nous ne sommes pas l'Union soviétique, nous sommes la France. Et la France, ça veut dire la laïcité, liberté religieuse complète, neutralité complète de l'État par rapport aux religions, mais aucunement le combat contre le besoin métaphysique de l'homme. Et aucunement le combat contre les religions, bien entendu. Et d'ailleurs, tout ce que nous disons, y compris le sujet précédent, ceux qui sont le plus d'accord avec moi, mais c'est les musulmans républicains de France, évidemment, et qui sont l'immense majorité, et qui ont besoin de ce cadre juridique, constitutionnel et législatif protecteur de la République française telle qu'elle est, cette République qui fait encore tellement envie dans le monde entier, parce que c'est une République de liberté, et qu'on veut sans arrêt attaquer à coups de marteau, parce qu'elle serait jamais aussi belle qu'il ne le faudrait, alors qu'on est dans un monde où, malheureusement, de moins en moins démocratique et de plus en plus menaçant. Moi, je veux fortifier la République française, et je veux dire que la liberté est un principe encore très fort, et que c'est pas en critiquant sans arrêt la France, et en faisant comme si c'était un lieu liberticide, que l'on peut avancer.
Jean-Michel Blanquer, vous avez tenu 5 ans à l'Éducation nationale, ce qui est quand même un record. On vous sent à la fois très engagé, mais parfois en colère de ne pas avoir été bien compris, parfois. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait ?
Je ne suis pas en colère, c'est un sentiment que je m'interdis la plupart du temps, même presque toujours, je crois. En revanche, je pense qu'il y a parfois un peu de contradiction dans le débat public, mais c'est bien normal, on est en démocratie. Mais vous savez, avant 2017, j'entendais très souvent les ministres de l'éducation, ça va et ça vient. De toute façon, aucun n'a le courage de mener des réformes parce qu'il y a trop de pression de tous les côtés. Celui ou celle qui le fera, il faudra qu'il accepte de bien des combats. Et puis un jour, cette chose-là, pardonnez-moi, c'est un peu immodeste, mais ça arrive. C'est-à-dire qu'il y a en effet un ministre qui reste 5 ans, qui accepte de regarder en face des problèmes comme le baccalauréat, comme le respect de la laïcité, comme les savoirs fondamentaux à l'école primaire, et qui le fait contre vents et marées, et alors même qu'il y a une épidémie comme il n'y en a pas eu dans notre histoire depuis fort longtemps, et qui réussit à faire qu'on soit dans les pays qui maintiennent le plus l'école ouverte. Alors je ne me mets pas en colère, mais si vous voulez, quand je vois que certains essayent de faire passer les vessies pour des lanternes et de dépeindre le bilan comme étant négatif ou quoi que ce soit.
Mais moi, ça permet pas quand même de retrouver un peu du souffle parfois, de pas rester pendant 5 ans, est-ce que c'est pas un peu long aujourd'hui dans la société de zapping dans laquelle on est?
Non, je me suis... Vous savez, dès que je suis arrivé, j'ai dit je souhaite rester tout au long du quinquennat, dans la mesure évidemment de la confiance du président de la République.
Il n'y a pas de regret sur ça?
Et d'ailleurs,
que c'est pas la bonne stratégie.
Je le remercie de cela, parce que c'est aussi lui qui a tenu, par exemple, pour l'école ouverte, c'est ensemble avec le Premier ministre que nous avons tenu ce cap, et je le remercie. C'est justement cette confiance dont peut-être certains de mes prédécesseurs n'ont pas suffisamment bénéficié, ça dépend lesquels. Eh bien, pendant 5 ans, ensemble, on a tenu un cap clair, tout à fait explicitable. Après, on peut ne pas être d'accord avec certains tenants ou certains aboutissants.
Est-ce que vous avez un seul regret depuis 5 ans?
Oh, j'en ai plusieurs, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de sujets que vous...
Je parle politiquement.
Beaucoup de sujets... Ah, d'accord. J'allais aller sur la pédagogie. Je pense qu'il nous reste beaucoup de choses à faire au collège, qu'on a un peu touché, même si on a fait l'opération devoir fait, qui est importante. Non, les seuls regrets que vous pouvez avoir, c'est d'avoir pris parfois des... Vous savez, ça aurait été beaucoup plus confortable pour moi de ne pas dire certaines choses. Et donc je pourrais en avoir des regrets. Mais...
Et pas de regret de ne pas avoir été nommé au ministère de l'Intérieur, par exemple?
Non, là, par exemple, ça fait partie... Non, mais cette chose-là, je le vois article après article. Alors, je n'ai jamais demandé à être ministre de l'Intérieur. Je n'ai jamais... Quand cette
demandé,
idée a
non,
existé...
Mais espérer.
Non plus. J'ai toujours dit au président de la République que je souhaitais rester 5 ans. Et quand l'idée est éventuel que je sois ministre de l'Intérieur est arrivé, c'est ce que je lui ai dit. Bien entendu, s'il avait souhaité m'y nommer, je suis très loyal, vous savez, donc je l'aurais accepté, mais je n'ai jamais demandé à ce qu'il en soit.
Juste, on fait un petit peu de politique, là, avant d'aller déjeuner. La recomposition qui se passe actuellement, et la faiblesse absolue de la gauche, des écologistes, même Jean-Luc Mélenchon, qui est le plus haut, mais qui n'est pas très très haut. Comment vous expliquez ce phénomène? Est-ce que vous faites une liaison avec le problème de la laïcité? Est-ce que vous considérez qu'ils ne sont pas occupés suffisamment du régalien? Juste, comment vous auriez imaginé ça?
Oui, bien sûr.
Alors, c'est que Macron a parfaitement réussi.
Non, je pense que c'est une mauvaise chose pour la France d'avoir un tel affaiblissement de ce qu'on peut appeler la gauche de gouvernement et la gauche républicaine. Vous savez, tout à l'heure, dans l'une de vos questions, vous me disiez, quand vous parliez du wokisme, la gauche, vous avez dit, la gauche vous reproche d'eux. Mais la gauche, pas toute la gauche, pas toute la Gaule, comme on dit ailleurs. Il y a évidemment toute une partie de la gauche républicaine qui est très à l'aise avec ce que je dis. Hier, j'étais avec Bernard Cazeneuve ou Manuel Valls dans un débat. Bernard Cazeneuve, que je sache, quand j'écoute Fabien Roussel, j'ai bien des différences avec lui, mais enfin, je vois bien que sur le logiciel républicain, il est dans une bonne tradition. Donc ça existe, des Fabien Roussel, des Bernard Cazeneuve. Après, on peut différer sur des préconisations de politique qu'ils ont, et c'est bien normal. Mais si vous voulez, quand on arrive au fondamental, on retrouve des choses qui sont essentielles pour la gauche. Moi, je me définis comme un républicain social. J'affirme que depuis le début du quinquennat, une partie importante des réformes sociales de ce gouvernement sont venues de mon ministère, comme le dédoublement des classes qui a été évoqué tout à l'heure. Le fait que, par exemple, nous avons réduit les inégalités de résultats entre les élèves des 20% des territoires les plus défavorisés par rapport au reste des 80% de la population. On est passé de 13 à 7 pour certaines compétences, de 13 à 7 points d'écart. C'est une performance très importante. Donc il n'y a pas plus social que cela, parce que les inégalités trouvent leurs racines pendant l'enfance, et on doit à ce moment-là être le plus efficace possible. Je me définis comme un républicain social, et il y a une partie de la gauche qui se reconnaît dans l'action qui est la mienne, et dans mon ministère, bien entendu, cela se voit. Et donc aujourd'hui, le salut pour la gauche viendra de sa capacité à être fidèle à ses origines, à ses sources. Et à ce moment-là, il y a toute une partie du peuple français qui se reconnaîtra de nouveau en elle. Mais quand la partie populaire du peuple, la plus populaire du peuple en particulier, voit qu'elle est abandonnée par la gauche pour de faux combats, alors évidemment, elle se détourne de la gauche et elle va un peu partout, et parfois même à l'extrême droite.
Il nous reste peu de temps. Question courte, réponse courte.
Quand on regarde le spectre politique, on voit aussi la poussée de l'extrême droite, c'est-à-dire des candidats Zemmour, Le Pen, qui sont extrêmement forts. Après un quinquennat où vous dites on a essayé de valoriser la République sociale, comment vous interprétez ça?
Il y a d'abord un phénomène international, et donc il y a une sorte de vague qui existe, et dont la France n'est pas épargnée. Et puis ensuite, cette défaillance de la gauche dont nous venons de parler, qui en effet a fait que bonne partie des anciens électeurs du Parti communiste sont aujourd'hui à l'extrême droite, par exemple. Et puis ensuite, le fait que certains à l'extrême droite ont parfois nommé des choses que d'autres refusaient de nommer.
Et en apportant
de mauvais remèdes.
C'est après 5 ans de...
On en revient à l'extrême droite, pose des bonnes questions, mais apporte des mauvaises réponses.
Oui, cette formule de Laurent Fabius, elle a ses limites, mais elle a aussi une part de réalité. C'est-à-dire que il y a des fois où il faut savoir dire les choses. Quand vous voyez le reportage sur Roubaix l'autre jour, il y a 2 ans, sur ce siège même, à Radio France, sur France Info, pour tout dire, je mentionnais Roubaix. J'avais été très critiqué pour ça. 2 ans plus tard, on a ce reportage. Et d'ailleurs, ce reportage a lieu parce que précisément, on a agi dans l'intervalle et qu'on a été regardé des écoles clandestines, etc. Si ce n'est pas le camp républicain social que, à mes yeux, nous incarnons, qui sait nommer ce genre de problème et sait apporter des débuts de réponse à la fois concrètes, humanistes, subtiles aussi, parce qu'il ne faut pas avoir des jugements à l'emporte-pièce sur ces questions. Si ce n'est pas nous qui le faisons, alors on laisse un terrain à l'extrême droite. Et donc, nous n'avons aucune raison de faire ça. Le patriotisme, le social, le républicanisme, c'est ce que nous incarnons, et nous ne devons pas laisser à d'autres le soin de singer ça.
Alors, on vous sent dans le combat politique. Qu'est-ce que vous faites après ce quinquennat?
Il est où Jean-Michel Blanquer en septembre 2022?
Comment vous poursuivez?
Je crois que quelque chose qui est vrai pour chacun d'entre nous, c'est il faut être fidèle à ses principes dans la vie. Il faut avoir quelques grands caps et s'y tenir.
Donc vous êtes encore dans la politique, vous faites plus de politique.
Mais les choses qui doivent arriver arrivent en fonction du fait que vous gardez votre cap. Voilà. Et elle, exactement. Vous savez, j'avais pas.
Donc vous serez candidat aux élections législatives.
Je suis devenu ministre de l'Éducation nationale parce que j'avais une obsession sur l'éducation. Et j'ai toujours. Que par ailleurs, j'ai des convictions politiques.
La campagne, donc, et les législatives.
J'aime mon pays plus que tout. Je déteste tout ce qui fragilise notre pays.
Et quand on aime son pays, on se présente aux élections.
Il y a bien des manières d'aider son pays. C'en est une. Heureusement, je pense que vous aimez votre pays en participant au débat public, en posant des questions, en travaillant pour un service public. Bref, chacun a sa façon d'aimer son pays, mais aimer son pays, c'est fondamental. Et après, la vie vous permet de le servir d'une manière ou d'une autre. Je remercie la vie d'avoir fait l'honneur de servir mon pays pendant 5 ans, bien sûr.
Merci Jean-Michel Blanquer, merci Alexandre Gilardi et Jean-Philippe Ballas pour la préparation de l'émission, à la réalisation Ronan May, Thomas Langlin, Nicolas Andreux, André Yanos. Merci aussi à toutes les trois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Questions Politiques.